Chapitre 20. Question. Pourquoi les gens doutent-ils de toi? Réponse. Parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Question. Pourquoi doutent-ils d'eux-mêmes? Réponse. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on leur a enseigné. Question. Qui a fait cela? Réponse. Des gens qui prétendaient me représenter. Question. Je ne vois pas. Pourquoi? Réponse. Parce que c'était une façon, la seule, de contrôler les gens. Tu dois douter de toi-même, tu vois, sinon tu t'approprierais tout ton pouvoir. Ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas bien du tout. Pas pour les gens qui détiennent actuellement le pouvoir. Ils détiennent le pouvoir qui t'appartient et ils le savent. Et la seule façon de s'y agripper est de conjurer le mouvement du monde vers la prise de conscience, puis la résolution des deux plus grands problèmes de l'existence humaine. Question. Qui sont? Réponse. Eh bien, j'en ai parlé à maintes reprises dans ce livre. Pour résumer alors, la plupart des problèmes et des conflits mondiaux, sinon tous, et tous vos problèmes et conflits en tant qu'individu, seraient résolus si, en tant que société, vous, petit 1, abandonniez le concept de séparation, petit 2, adoptiez le concept de visibilité. Ne vous considérez plus jamais comme des êtres séparés les uns des autres, et ne vous considérez jamais séparés de moi. Ne dites jamais que toute la vérité à quiconque, et n'acceptez plus jamais rien de moins que votre vérité la plus grandiose à mon propos. Le premier choix engendrera le second, car lorsque tu verras et comprendras que tu ne fais qu'un avec chacun, alors tu ne pourras ni mentir, ni retenir d'informations importantes, ni être rien d'autre que totalement visible avec tous les autres, parce que tu sauras clairement qu'il est dans le meilleur de tes intérêts de le faire. Mais ce changement de paradigme exigera une grande sagesse, un grand courage et une détermination massive, car la peur va frapper au cœur de ces concepts et les qualifier de faux. La peur va dévorer le cœur de ces magnifiques vérités et les fera paraître vides. La peur va déformer, dédaigner, détruire. Ainsi, la peur sera votre plus grand ennemi. Vous ne pourrez vivre dans, ni même créer, le monde dont vous avez toujours rêvé si vous ne reconnaissez pas, avec sagesse et clarté, la vérité ultime. Ce que tu fais aux autres, c'est à toi-même que tu le fais. Ce que tu négliges de faire aux autres, c'est à toi-même que tu négliges de le faire. La douleur des autres est tienne et la joie des autres est tienne. Et lorsque tu désavoues quelque partie que ce soit, tu désavoues une partie de toi-même. Le temps est venu de te réapproprier. Le temps est venu de chercher à nouveau qui tu es vraiment, et ainsi de te rendre à nouveau visible. Car lorsque toi et ta vraie relation à Dieu deviendraient visibles, alors nous serons indivisibles, et rien ne nous divisera plus jamais. Et même si tu vis encore dans l'illusion de la séparation, sers-t'en comme d'un outil afin de recréer ton soi, et tu passeras de façon éclairée d'une incarnation à une autre, voyant l'illusion pour ce qu'elle est, l'utilisant de façon ludique et joyeuse pour faire l'expérience de tout aspect de qui nous sommes, dont il te plaise de faire l'expérience, mais sans jamais plus l'accepter comme une réalité. Tu n'auras plus jamais à utiliser le stratagème de l'oubli afin de recréer ton soi, mais tu utiliseras la séparation sciemment, tout simplement en choisissant de te manifester en tant que ce qui est séparé, pour une raison et dans un but particulier. Et lorsque tu seras ainsi éclairé, c'est-à-dire une fois de plus rempli de lumière, tu pourras même choisir, comme raison particulière de retourner à la vie physique, de rappeler les autres. Tu pourras choisir de retourner à cette vie physique, non pas pour créer et faire l'expérience de tout nouvel aspect de ton soi, mais pour apporter la lumière de la vérité en ce lieu d'illusion, afin que d'autres puissent voir. Puis, tu seras un messager de la lumière, entre guillemets. Alors, tu feras partie de l'éveil. D'autres l'ont déjà fait. Question. Ils sont venus ici pour nous aider à savoir qui nous sommes? Réponse. Oui, ce sont des âmes éclairées, des âmes qui ont évolué. Elles ne cherchent plus de meilleure expérience d'elles-mêmes. Elles ont déjà fait l'expérience la plus élevée. À présent, elles désirent seulement vous apporter la nouvelle de cette expérience. Elle vous apporte la bonne nouvelle, entre guillemets. Elles vous montreront la voie et la vie de Dieu. Elles disent « Je suis la voie et la vie, suivez-moi ». Puis, elles vous donneront un exemple de ce que c'est que de vivre dans la gloire éternelle de l'union consciente avec Dieu, qui s'appelle la conscience de Dieu. Nous sommes toujours unis, toi et moi. Nous ne pouvons ne pas l'être. C'est tout simplement impossible. Mais tu vis à présent l'expérience inconsciente de cette unification. Il est également possible de vivre dans le corps physique en union consciente avec tout ce qui est, dans la conscience de la vérité ultime, dans l'expression consciente de qui tu es vraiment. Lorsque tu fais cela, tu sers de modèle à tous les autres qui vivent dans l'oubli. Tu deviens un R-appel, un rappel vivant. Et en cela, tu évites aux autres de se perdre à jamais dans leur oubli. Voilà l'enfer, se perdre à jamais dans l'oubli. Mais je ne le permettrai pas. Je ne permettrai pas à une seule brebis de se perdre. J'enverrai un berger. En effet, j'enverrai bien des bergers, et tu pourras choisir d'en être un. Et lorsque tu réveilleras les âmes de leur sommeil, qu'elles se appelleront une fois de plus, qu'elles se rappelleront une fois de plus qui elles sont, tous les anges du ciel se réjouiront pour ces âmes, car elles étaient perdues et elles seront retrouvées. Question. Il y a des gens, des saints qui sont comme cela, maintenant sur notre planète, n'est-ce pas? Pas seulement dans le passé, mais maintenant. Réponse. Oui, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Je ne vous laisserai pas dépourvu de maître. Je n'abandonnerai pas le troupeau. Je lui enverrai toujours mes bergers. Il y en a actuellement un grand nombre sur votre planète. De même que dans certaines parties de l'univers. Dans certaines parties de l'univers, ces êtres vivent ensemble en communion constante et en expression constante de la vérité la plus élevée. Ce sont les sociétés éclairées dont j'ai parlé. Elles existent, elles sont réelles, elles vous ont envoyé leurs émissaires. Question. Tu veux dire que le Bouddha, Krishna et Jésus étaient des êtres de l'espace? Réponse. C'est toi qui le dis, pas moi. Question. Est-ce vrai? Réponse. Est-ce la première fois que tu entends cette pensée? Question. Non, mais est-elle vraie? Réponse. Crois-tu que ces maîtres ont existé quelque part avant de venir sur Terre et sont retournés à cet endroit après leur mort apparente? Question. Oui, je le crois. Réponse. Et où se trouve cet endroit selon toi? Question. J'ai toujours cru que c'était ce que nous appelons le paradis. Je croyais qu'il venait du paradis. Réponse. Et où se trouve le paradis d'après toi? Question. Je ne sais pas, dans un autre royaume, je suppose. Réponse. Un autre monde. Question. Oui, je vois, mais je l'aurais appelé le monde des esprits, pas un autre monde au sens où nous l'entendons, pas une autre planète. Réponse. C'est le monde des esprits. Mais qu'est-ce qui te fait penser que ces esprits saints, ne peuvent ou ne veulent pas choisir de vivre ailleurs dans l'univers, tout comme ils l'ont fait lorsqu'ils sont venus dans votre monde? Question. Je suppose que je n'y ai jamais pensé de cette façon. Ça n'a pas du tout fait partie de mes idées sur tout cela. Réponse. Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, Horatio, que n'en ont rêvé tes philosophes. C'est William Shakespeare, votre merveilleux métaphysicien, qui a écrit cela. Question. Alors, Jésus était un homme de l'espace? Réponse. Je n'ai pas dit cela. Question. Eh bien, en était-il un, oui ou non? Réponse. Patience, mon enfant, tu cours trop vite, il y a d'autres choses, tellement d'autres choses. Nous avons tout un autre livre à écrire. Question. Tu veux dire que je devrais attendre le tome 3? Réponse. Je te l'ai dit, je te l'ai promis dès le départ. Je t'ai dit qu'il y aurait 3 livres. Le premier traitera des vérités et des défis de la vie individuelle. Le deuxième discutera des vérités de la vie en tant que famille sur cette planète. Et le troisième, ai-je dit, parlera des vérités les plus grandes, des questions éternelles. C'est dans celui-là que seront révélés les secrets de l'univers. Question. Oh, dis donc, je ne sais pas si je pourrais encore supporter ça longtemps. Écoute, je suis vraiment fatigué de vivre dans la contradiction, comme tu le dis toujours. Je veux que ce qui est ainsi soit ainsi. Réponse. Alors, qu'il en soit ainsi. Question. À moins que non. Réponse. C'est ça, tu l'as. Maintenant, tu comprends la divine dichotomie. Maintenant, tu vois l'ensemble du tableau. Maintenant, tu comprends le plan. Tout ce qui a jamais été, est maintenant et sera jamais, existe maintenant. Et ainsi, tout ce qui est, est. Mais tout ce qui est en changement constant, car la vie est un processus continuel de création. Par conséquent, en un sens très réel, ce qui est n'est pas. L'être n'est jamais le même, ce qui veut dire que l'être n'est pas. Question. Alors, excuse-moi, Charlotte Brown, mais bonté divine, comment, alors, quoi que ce soit peut-il signifier quoi que ce soit ? Réponse. Ce n'est pas le cas, mais tu cours encore trop vite. Tout cela lorsque le moment sera venu, mon fils. Tout cela lorsque le moment sera venu. Ces grands mystères, et d'autres, seront tous compris après la lecture du tome 3. À moins, tous ensemble, maintenant. Question. À moins que non. Réponse. Précisément. Question. D'accord, d'accord, ça va. Mais d'ici là, ou pour les gens qui ne liront peut-être jamais ces livres, quelles avenues peut-on utiliser ici et maintenant pour revenir à la sagesse, pour revenir à la clarté, pour revenir à Dieu ? Avons-nous besoin de retourner à la religion ? Est-ce le lien manquant ? Réponse. Retourner à la spiritualité. Oubliez la religion. Question. Cette affirmation va rendre furieux des tas de gens. Réponse. Les gens vont réagir avec colère à tout ce livre. À moins que non. Question. Pourquoi dis-tu « oubliez la religion » ? Réponse. Parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Comprends que, pour avoir du succès, la religion organisée doit faire croire aux gens qu'ils en ont besoin. Pour que les gens prêtent foi à quelque chose, ils doivent d'abord perdre la foi en eux-mêmes. Alors, la première tâche de la religion organisée est de vous faire perdre la foi en vous-même. La seconde tâche est de vous faire voir qu'elle possède les réponses que vous n'avez pas. Et la troisième et la plus importante est de vous faire accepter ces réponses sans poser de questions. Si vous posez des questions, vous commencez à penser. Si vous pensez, vous commencez à revenir à cette source intérieure. La religion ne peut vous le permettre, car vous êtes susceptible de trouver une réponse différente de celle qu'elle a cherchée. Alors, la religion doit vous faire douter de votre soi. Elle doit vous faire douter de votre propre capacité de penser clairement. Le problème avec la religion, c'est que très souvent cela refoule. Car si vous ne pouvez accepter sans le moindre doute vos propres pensées, comment pouvez-vous ne pas douter des nouvelles idées à propos de Dieu que la religion vous a données ? Bientôt, vous douterez même de mon existence, dont, ironiquement, vous n'avez jamais douté auparavant. Lorsque vous viviez selon votre connaissance intuitive, vous ne me compreniez peut-être pas complètement, mais vous saviez certainement que j'étais là. C'est la religion qui a créé les agnostiques. Quiconque pense clairement et regarde ce que la religion a fait doit prendre pour acquis que la religion n'a aucun Dieu. Car c'est la religion qui a rempli les cœurs des hommes de la peur de Dieu, tandis qu'avant, l'homme aimait ce qui est dans toute sa splendeur. C'est la religion qui a ordonné aux hommes de s'incliner devant Dieu, tandis qu'avant l'homme se levait dans un joyeux mouvement. C'est la religion qui a chargé l'homme d'inquiétude à propos de la colère de Dieu, tandis qu'auparavant l'homme cherchait Dieu pour alléger son fardeau. C'est la religion qui a dit à l'homme d'avoir honte de son corps et de ses fonctions les plus naturelles, alors qu'auparavant l'homme célébrait ses fonctions comme les plus grands cadeaux de la vie. C'est la religion qui vous a enseigné que vous deviez avoir un intermédiaire afin d'atteindre Dieu, tandis qu'avant, vous aviez l'impression d'atteindre Dieu vous-même en vous contentant de vivre votre vie dans la bonté et dans la vérité. Et c'est la religion qui a ordonné aux humains d'adorer Dieu, tandis qu'avant, les humains adoraient Dieu parce qu'il était impossible de ne pas le faire. Partout où elle est passée, la religion a créé la division, qui est à l'opposé de Dieu. La religion a séparé l'homme de Dieu, l'homme de la femme. Certaines religions disent en fait à l'homme qu'il est au-dessus de la femme, alors même qu'elles proclament que Dieu est au-dessus de l'homme, mettant ainsi en place l'un des plus grands travestissements jamais imposés à la moitié de la race humaine. Je te dis ceci, Dieu n'est pas au-dessus de l'homme. Et l'homme n'est pas au-dessus de la femme, ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Mais tous ceux qui ont du pouvoir, c'est-à-dire les hommes, voulaient qu'il en soit ainsi lorsqu'ils ont fondé leur religion sur le culte du masculin écartant systématiquement de leur version finale des Écritures saintes la moitié de leur contenu et déformant le reste pour l'adapter au moule de leur modèle masculin du monde. C'est la religion qui prétend encore aujourd'hui que les femmes sont en quelque sorte inférieures, en quelque sorte des citoyens spirituels de seconde zone, en quelque sorte mal adaptés à l'enseignement de la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu ou à la prêtrise. Comme des enfants, vous êtes encore en train de vous disputer à propos de l'ordination des femmes. Je te dis ceci, vous êtes tous des prêtres, chacun de vous. Il n'y a pas une personne ou une classe de gens qui soit mieux adaptée qu'une autre pour accomplir mon œuvre. Mais un si grand nombre de vos hommes ressemblent exactement à vos pays. Affamés de pouvoir, ils n'aiment pas le partager. Ils ne veulent que l'exercer. Et ils ont construit le même genre de Dieu. Un Dieu affamé de pouvoir. Un Dieu qui n'aime pas partager le pouvoir, mais tout simplement l'exercer. Mais je te dis ceci. Le plus grand cadeau de Dieu est le partage du pouvoir de Dieu. Je préfère que vous soyez comme moi. Question. Mais nous ne pouvons pas être comme toi, ce serait un blasphème. Réponse. Le blasphème, c'est qu'on vous ait dit cela. Je te dis ceci. Vous avez été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cette destinée que vous êtes venu accomplir. Vous n'êtes pas venu ici pour lutter, pour vous battre et pour ne jamais y arriver. Et je ne vous ai pas envoyé non plus en mission impossible. Croyez à la bonté de Dieu et croyez à la bonté de la création de Dieu, c'est-à-dire vos soies sacrées. Question. Tu as dit quelque chose plus tôt dans ce livre qui m'a intrigué. J'aimerais y revenir car nous arrivons à la fin de ce volume. Tu as dit « Le pouvoir absolu n'exige absolument rien. Est-ce la nature de Dieu ?» Réponse. Tu as compris. J'ai dit « Dieu est tout et Dieu devient tout. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas. Et tout ce dont Dieu fait l'expérience de lui-même, Dieu en fait l'expérience en tant que et à travers toi. Sous ma forme la plus pure, je suis l'absolu. Je suis absolument chaque chose, et par conséquent, je n'ai besoin de rien. Je ne veux et je n'exige absolument rien. Dans ma forme absolument pure, je suis tel que tu me fais. C'est comme si enfin tu voyais Dieu et que tu disais, « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais peu importe ce que vous faites de moi, je ne peux oublier et je reviendrai toujours à ma forme la plus pure. Tout le reste est une fiction. C'est quelque chose que tu es en train d'inventer. Certains voudraient faire de moi un Dieu jaloux, mais qui pourrait être jaloux alors qu'on a et qu'on est tout ? Certains voudraient que je sois un Dieu coléreux, mais qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère alors que je ne peux être blessé ni estropié d'aucune façon ? Certains voudraient faire de moi un Dieu vengeur, mais sur qui jetterai-je ma vengeance, puisque tout ce qui existe est moi? Et pourquoi me punirais-je pour avoir tout simplement créé? Ou, si tu dois considérer que nous sommes séparés, pourquoi t'aurais-je créé? T'aurais-je donné le pouvoir de créer? T'aurais-je donné la liberté de créer ce dont tu veux faire l'expérience, pour ensuite te punir à jamais d'avoir fait le « mauvais choix » entre guillemets? Je te dis ceci. Je ne ferai rien de tel, et sur cette vérité repose ta liberté par rapport à la tyrannie de Dieu. En vérité, il n'y a pas de tyrannie. Sinon, dans ton imagination, tu peux revenir chez toi chaque fois que tu le voudras. Nous pourrons être ensemble à nouveau chaque fois que tu le voudras. L'extase de ton union avec moi est à nouveau à ta portée. En un clin d'œil, quand tu sentiras le vent sur ton visage, quand tu entendras un criquet sous un ciel de diamants par une nuit d'été, à la première vue d'un arc-en-ciel et au premier cri d'un nouveau-né, au dernier rayon d'un crépuscule spectaculaire et au dernier souffle d'une vie spectaculaire, je serai toujours avec toi, même jusqu'à la fin des temps. Ton union avec moi est complète. Elle l'a toujours été, l'est toujours et le sera toujours. Toi et moi ne faisons qu'un, maintenant et à jamais. Va maintenant et fais de ta vie une affirmation de cette vérité. Fais en sorte que tes jours et tes nuits soient des reflets de l'idée la plus élevée qui soit en toi. Laisse tes instants présents se remplir de l'extase spectaculaire de Dieu qui se manifeste par toi. Fais-le par l'expression de ton amour éternel et inconditionnel, pour tous ceux dont tu atteins la vie. Sois une lueur dans l'obscurité et ne maudis pas celle-ci. Sois un messager de la lumière. Tu es cela. Ainsi soit-il.